Bien, je pense qu'on va commencer. Je vais dire deux mots au nom de l'association et puis présenter rapidement notre ami Habib Haïdar. Et on va consacrer l'essentiel de l'après-midi à son exposé et aux questions qui vont se poser. Je vous remercie d'être venu. L'Afghanistan sort bien souvent de l'actualité. Il faut parfois chercher bien pour trouver des informations. Et ce n'est pas dans la grande presse occidentale qu'on les trouve. On est obligé pratiquement d'aller les chercher dans les médias afghans, même quand ils sont traduits en anglais. Et c'est donc d'autant plus méritoire à vous d'être venu, alors que justement on n'en parle pas beaucoup de l'Afghanistan. Quelques mots sur l'association. Vous savez qu'on travaille dans différents domaines. On aide les écoles en Afghanistan, et spécialement ces dernières années un lycée, en apportant du matériel pour la bibliothèque. Cette année, on a payé des vitres cassées. On a contribué à un sol d'évolution de gymnastique, aux uniformes, à construire un mur d'enceinte qui n'était pas terminé et qui laissait les gens rentrer librement à l'intérieur de l'école. Bien, ça, c'est l'essentiel. C'est là que va l'argent, des cotisations et des dons. Il y a aussi tout le travail des filleuls. Nous avons 24 filleuls et donc un certain nombre de parrains, un petit peu moins, parce qu'il y en a qui parrainent plusieurs filleuls, et nous les aidons dans leur scolarité. Ça demande un suivi pour vérifier que, effectivement, ces élèves vont bien à l'école, qu'ils sont bien dans les conditions fixées par l'association. En France, nous travaillons à faire connaître la culture afghane, surtout par notre fête de Nowruz, et puis à participer à tous les débats sur le présent et l'avenir de l'Afghanistan. Malheureusement, assez noir. Je solliciterai peut-être vos dons, en particulier pour les parrainages, parce qu'il se produit quelque chose qui est assez facile à comprendre. C'est que nous avons donc 24 enfants, et parfois les parrains sont un peu négligents, et nous avons parfois des paiements avec retard, si bien que nous ne pouvons pas assurer un parrainage entier à certains enfants, où nous sommes obligés de rediviser la somme. Donc s'il y en a parmi vous qui étaient prêts à établir un prélèvement automatique de 10 euros par mois, ça nous aiderait à compenser les faiblesses de l'ensemble du dispositif et à boucher des trous quand certains parrains se trouvent négligents. On verra ça après quand on prendra le thé. Bien, notre ami Habib Haïdar, je l'avais amplement présenté dans les petites fiches que j'ai envoyées pour appeler à la réunion. Il est agroéconomiste de formation, docteur en géographie humaine de l'Université de la Sorbonne. Il a publié de nombreux articles et donc ses positions sont très connues dans le milieu et très discutées, surtout il y a quelques années, quand il a collaboré au gouvernement afghan, au ministère de l'Agriculture. Il a été nommé en janvier 2005 conseiller auprès du ministère de l'Agriculture à Kaboul, chargé des relations avec la FAO et l'Union européenne. Il s'est trouvé en désaccord total, et on sentira bien pourquoi quand il s'exprimera, avec son ministre et avec la politique officielle de réhabilitation de l'agriculture de la FAO. Bien. Après avoir alerté l'Assemblée nationale afghane, il a donné sa démission et il est rentré en France. Il avait publié un livre en 2006 qui s'appelle « Afghanistan, reconstruction et développement ». Retourné à la vie privée, Habib Haïdar s'est consacré à la vente de tapis, ce qui est une manière de faire connaître la culture afghane, puisque chaque tapis représente un mode de vie, représente une histoire, représente une date dans l'histoire de l'Afghanistan. À chaque fois qu'on lui a proposé, Habib Haïdar est intervenu dans les émissions radio et télé ou par voie de presse pour parler de l'Afghanistan. Et un grand nombre de ses articles sont publiés sur le site de Mediapart. Voilà, ben je pense que juste encore un mot pour justifier de l'intitulé de notre réunion, c'est-à-dire le problème des migrants. Le problème des migrants envisagé à sa source, c'est-à-dire pourquoi ces jeunes, en particulier ces jeunes hommes, partent de l'Afghanistan pour l'Europe, quelles en sont les raisons, y a-t-il d'autres espérances de vie, y a-t-il d'autres espoirs en Afghanistan? Bon, je laisse la parole à Habib sur ce point.
Bonjour. Et merci à Michel Tourneau et Nafissa de m'inviter. Est-ce que vous m'entendez? De venir vous parler de l'Afghanistan et des problèmes de ces Afghans qui viennent frapper à la porte de l'Europe. Ce matin, en prenant le train de Montpellier pour venir vers Marseille, j'étais dans une sorte de sentiment à la fois de joie pour venir parler devant vous de l'Afghanistan et d'une immense tristesse parce que d'un seul coup d'un seul, je suis tombé dans les souvenirs d'il y a 15 ans où j'allais de salle en salle, de région en région pour chanter les espérances de mes compatriotes pour un avenir meilleur. Parce qu'à l'époque, il y avait une toute petite fenêtre qui s'était ouverte. Et votre serviteur, comme beaucoup d'autres Afghans, faisait partie de ces exilés des années 80 qui voulaient, avec grand plaisir, retourner en Afghanistan pour que la France reste toujours un terre d'accueil pour les exilés et que la France reste toujours une terre ou un terrain pour que les gens qui sont fracassés par l'exil ils viennent se ressourcer ici. Vous savez, je n'imite pas Barack Obama, excusez-moi, depuis que je suis vieux je pleure toujours. Mes excuses. Vous savez, dans ma jeunesse, j'ai vendu des tapis comme exilé parce que quand j'ai terminé mes études en France, j'ai beaucoup travaillé avec les nomades. Et vous ne pouvez pas imaginer, ces quelques années que j'ai travaillé dans les déserts avec les nomades, c'était une école extraordinaire de ma vie où j'ai appris des milliers de choses que je n'avais pas compris dans les universités ou dans les salles de classe à l'université. Et quand l'exil est arrivé, en 1992, j'étais chômeur et je suis retourné au Pakistan, à la frontière afghane, pour savoir si je pouvais me battre parmi les résistants afghans. Et me rendre utile plutôt là-bas qu'en restant dans ce beau pays qui est extraordinaire, qu'on appelle la France. Et c'est là que j'ai rencontré mes compatriotes nomades avec lesquels je faisais du développement en Afghanistan, qui m'ont ouvert grand les yeux en me disant, mais tu sais, les gens qui se sont accaparés de la résistance à notre nom, ce ne sont pas des gens dignes de ce pays. Et ce sont des mercenaires, ce sont des gens opportunistes, qui au nom de l'islam, qui au nom de tribus, qui au nom de la politique, ils instrumentalisent l'Afghanistan pour leur propre intérêt. Et toi, tu n'es qu'un tout petit. Et tu ne peux pas rester ici, on va te tuer. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne peux pas retourner en Europe, j'ai envie de rester. Je vous assure que je peux vous donner le numéro de téléphone de ces nomades-là. Malheureusement, il est paralysé. Il a mon âge. À l'époque, il avait une trentaine d'années. Et aujourd'hui, il a 70 ans comme moi. Et il m'a dit, mais tu sais, tu vas avec nos tapis dans tous les coins de la France parler de nous, les nomades et les paysans. Et tu vas expliquer aux Occidentaux nos attentes. Et c'est comme ça que je suis devenu marchand de tapis. Et j'ai bourlingué toute la France avec des tapis. Enfin, la France et les institutions françaises. Je suis même allé à l'Assemblée européenne en 89, quand l'armée russe s'est retirée de l'Afghanistan, pour aller avec les tapis devant toute l'Assemblée européenne, dire qu'est-ce que les nomades, à travers les tapis, à travers les signes, symboles et dessins très primitifs, ils vous disent et comment il faut approcher ces gens-là. Bref, excusez-moi de vous raconter cette histoire de vie, mais la majorité de la population afghane ne sont pas des gens qui ont vécu dans les grandes villes, ce ne sont pas des gens qui ont fréquenté les écoles, ce sont en majorité à 80-85% des paysans et des nomades, ce sont des gens, ou c'était des gens qui vivaient très heureux en temps de paix. Ils étaient pauvres, mais grâce à leur culture, ils avaient des principes, des techniques, des méthodes de prévoyance qui leur permettaient de vivre jusqu'à 3 à 5 années sans avoir recours à l'aide internationale et à la mendicité. Et voilà que la guerre arrive. Et la guerre, vous savez, c'est la plus pire des choses qui puissent arriver à l'humanité. Et malheureusement, depuis 1978, que l'Afghanistan est en guerre, la guerre a rendu malades les Afghans. Vous ne trouvez pas un Afghan aujourd'hui qui ne soit pas malade. Nos politiques sont devenues malades d'enrichissement et d'égoïsme et de cupidité. Et le pauvre, les gens ordinaires, les gens qui n'ont pas de représentants pour qu'ils viennent parler en leur nom devant vous, ce sont des gens qui sont malades de trouille. Vous savez, ils vivent dans une telle atmosphère de peur et d'angoisse, de toutes sortes, qu'ils sont malades. Quand j'étais jeune Afghan, quand les gens devenaient déséquilibrés, les gens normaux nous disaient « Un tel est devenu fou, il grimpe en montagne. » Malheureusement, aujourd'hui, mes compatriotes sont devenus fous, ils frappent à vos portes. Ce n'est pas la raison qui les amène en Occident, c'est la folie, croyez-moi. Vous savez, l'exil fracasse, l'exil... C'est quelque chose que tant qu'on n'a pas vécu l'exil, on ne peut pas comprendre. Abandonner sa langue, abandonner sa culture, abandonner sa famille, abandonner sa rue, abandonner sa terre. Vous voyez, des fois, quand la lumière se lève, je suis anéanti parce que, à Montpellier, j'ai l'impression que je suis en automne à Kaboul. Et des heures et des heures, je suis complètement perdu. Donc, vous savez, je ne pleure pas pour attirer votre attention, ni que vous ayez pitié de moi. Mais je pense que, à part les larmes, les mots n'ont pas de sens. Parce que j'ai utilisé depuis 30 dernières années toutes sortes de mots devant toutes sortes de publics, mais à chaque fois, j'étais applaudi dans les salles, mais quand j'avais le dos tourné, j'étais oublié. Et voilà, c'est la vie. Mais pour revenir à mon sujet, vous savez, est-ce qu'il y a des solutions pour que ces exilés qui se fracassent, vous savez, qui viennent là parce qu'ils sont désespérés. Est-ce qu'il y a des solutions? Alors, si j'avais des solutions, oui, j'avais des solutions quand j'étais jeune homme, mais malheureusement, je vous le dirai tout à l'heure, personne n'a écouté ces solutions-là. Mais avant que je vous raconte ces solutions, permettez-moi d'abord de vous dire pourquoi ces gens-là frappent à la porte. Tous ces gens qu'on dit des exilés politiques ou économiques, en réalité, ce sont des réalités, des exilés de tranquillité et des jours meilleurs. Vous savez, il est très difficile aujourd'hui, quand on va devant les offices de l'OFPRA pour défendre un jeune Afghan ou un vieux Afghan qui arrive en exilé, pour leur dire qu'il est menacé politiquement. Parce qu'en Afghanistan, il n'y a pas de politique. Vous savez, parce qu'en Afghanistan, il n'y a pas d'économie. La seule chose que je vous dis, c'est que priez le ciel que tout le monde ne devienne pas conscient, qu'il y a des jours meilleurs ailleurs. Sinon, dans les 6 mois à venir, si toute la population afghane devenait consciente qu'il n'y a pas d'avenir avec les gouvernants et avec les institutions internationales qui sont en Afghanistan, 30 millions d'Afghans prendront le chemin de l'exil. Messieurs, dames, aujourd'hui, les Afghans sont menacés au quotidien par 1000 sortes d'insécurité. La liste est longue. L'insécurité ou les insécurités sont telles que quand les gens quittent leur maison le matin, ils ne sont pas sûrs de revenir retrouver leur famille le soir. Parce que à chaque bout de la rue, ils peuvent être victimes d'un kamikaze, victimes d'une voiture piégée, d'une mine antipersonnelle, d'enlèvements, de toutes sortes de rançons, de vols. Vous savez, on vous arrête et on vous dit qu'est-ce que tu as dans tes poches, on vous vide vos poches et on s'en va. De toutes sortes de tensions ethniques, vous savez. Malheureusement, en Afghanistan, il y a 4 ethnies majoritaires en Afghanistan, plus quelques hindous et juifs, mais qui sont très minoritaires. Mais les Pashtuns ne supportent pas les Tadjiks ne supportent pas les Hazaras ne supportent pas les Tadjiks et Hazaras. Il y a une telle ambiance de méfiance et de mépris que le mot me manque pour vous dire voilà la situation. Les relations sociales sont complètement dégradées. Afghanistan était un pays de nomades et de paysans, vous voyez. Les nomades pachtous étaient un allié de paysans sédentaires. Le nomade pachtoun était le commerçant, le banquier, la force de travail ambulant, le producteur du lait et de la viande pour le paysan sédentaire qui, à cause de manque d'eau en Afghanistan, vous savez, l'eau est rare, la terre n'est pas rare, l'eau est rare. Les paysans et les nomades vivent partout en Afghanistan entre 50 et 250 millilitres d'eau par an. Vous savez, notre seule chance, c'est que l'Afghanistan se trouve en Asie centrale avec les grandes montagnes d'Himalaya qui vont jusqu'à 7000 mètres d'altitude. Et c'est dans ces montagnes-là qui nous conservent l'eau qui tombe pendant un mois dans ces coins-là et après, sous forme de la neige qui va fondre, qui va irriguer tout l'Afghanistan pour que l'agriculture puisse être organisé et que les gens puissent vivre autour de l'élevage et de l'agriculture. Donc, il y a 30 ans, ces animosités ethniques n'existaient pas. Et aujourd'hui, vous savez, quand dans l'Afghanistan central, des nomades pachtounes vont vers leur pâturage estivales, ils sont obligés de traverser les régions sédentaires des Hazaras. Et les tensions ethniques sont telles que maintenant, vous savez, les Pashtuns décapitent les Hazaras et les Hazaras décapitent les Pashtuns. Comme Daesh, vous savez, tous les jours, je vous assure, des têtes des pauvres gens sont coupées, envoyées à droite et à gauche, mais on ne dit pas pourquoi, mais parce qu'il y a une tension ethnique, parce que depuis 2015, l'État de droit n'a pas su se mettre en place et qu'aujourd'hui, cette nation-là est fracassée. Voilà. Donc, parce que cette nation-là est fracassée, les gens ne peuvent pas vivre chez eux, à la campagne, dans leur pays. Donc, il y a l'insécurité, les insécurités dont je viens de vous parler provoquent trois types de déplacements. Des déplacés intérieurs dont personne n'en parle. Mais aujourd'hui même, il y a plus de 1 200 000 déplacés intérieurs en Afghanistan qui vivent dans des conditions que l'être humain ne peut pas y vivre. Ils n'ont ni l'eau, ni des possibilités d'avoir des sanitaires. Ils vivent quotidiennement dans les immondices que vous ne pouvez pas imaginer. Après, vous savez, il y a des exilés qui ne peuvent pas vivre dans ces conditions-là. Donc, ils vont prendre le chemin de l'exil en Iran et au Pakistan. Malheureusement, vous savez, et le gouvernement afghan, et le gouvernement iranien, et le gouvernement pakistanais reçoivent des millions de dollars d'aide de la part du Haut Commissariat des réfugiés pour venir en aide à ces populations-là. Mais 80% de cette aide-là est détournée et la population réfugiée, la population afghane réfugiée dans ces camps en Iran et au Pakistan vivent dans des conditions de sécurité et de salubrité incroyables. Au Pakistan, les réfugiés afghans sont rançonnés. Ils sont emprisonnés quotidiennement pour des raisons administratives. Ils sont exploités dans l'agriculture, dans le bâtiment, dans la fabrication des briques. Et pour survivre, vous savez, les Afghans acceptent toutes sortes d'exploitations et les Pakistanais, et le gouvernement pakistanais et les institutions qui les encadrent ne se privent pas pour les exploiter. Les mêmes malheureux réfugiés en Iran, vous savez, oui, autre chose que je ne dois pas oublier de vous le dire, c'est qu'au Pakistan, maintenant, les jeunes Afghans sont recrutés par Daesh et les talibans pour venir faire la guerre contre le gouvernement. Donc, voilà. En Iran, les réfugiés afghans sont poussés à la prostitution d'une part, à des exploitations. Vous avez 80% des ouvriers des bâtiments qui travaillent pour une bouchée de pain dans tous les territoires iraniens, ce sont des Afghans. Les Afghans sont obligés d'aller faire la guerre contre Daesh pour soutenir Bachar el-Assad en Syrie. S'ils refusent, les Iraniens leur privent d'aller faire leurs courses sur les marchés. Leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école et ils subissent toutes sortes d'humiliations. Voilà. Les Afghans qui se trouvent au Pakistan et en Iran, vous savez, il y a deux types d'Afghans. Il y a des enregistrés et des non-enregistrés. Entre des enregistrés et des non-enregistrés, il faut compter entre 3 et 5 millions d'Afghans qui vivent dans les périphéries frontalières de l'Afghanistan. Alors, le troisième, c'est les malheureux Afghans qui sont conscients que il n'y a pas de vie ni dans les camps de réfugiés, ni à l'intérieur de l'Afghanistan, et qu'il vient frapper à la porte de l'Europe. Leur nombre en 2015, d'après les données de l'Union européenne, représentait 124 000 Afghans. Ce sont des Afghans dont le moyen d'âge est de 35 ans, mais dans les populations, vous trouvez des jeunes Afghans de 12 ans comme un vieux Afghan aveugle de 92 ans. Les Afghans qui viennent frapper à la porte de l'Europe sont en général des gens qui ont un peu de moyens. Pour venir jusqu'à l'Europe, on dépense entre 6 et 7 000 dollars par individu. Le trafic de réfugiés rapporte annuellement 1 milliard de dollars pour la mafia qui organise ce type de trafic. En Afghanistan, il y a des sociétés de voyage qui sont là et qui font transporter les réfugiés qui désirent venir en Europe dans les camions jusqu'à Istanbul. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise encore ? S'il est passé quelque chose ? Oui. Alors, ce sont des gens qui parlent bien l'anglais. Ils ont un peu de sous. Ils ont souvent un téléphone portable et ils savent où aller et pourquoi ils viennent en Occident. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit sur ceux qui viennent en Europe. Et alors, le problème, c'est que, vous voyez, ici, en Europe, on ne peut pas accepter tout le monde. Il y a des réfugiés de Syriens, Irakiens, Afghans, Africains, Maliens, etc. Et il faut trouver des solutions. Et malheureusement, les solutions données par les institutions, on parle toujours de millions de dollars et un projet. Et c'est très abstrait, vous savez, ces millions de dollars et ces projets-là, à part que dépenser vos contributions. Pour votre information, j'ai fait un aparté depuis 2002 jusqu'à 2015, la reconstruction de l'Afghanistan pour la communauté internationale, dont une partie par vous, a coûté 1 000 milliards de dollars pour vous, les Occidentaux. Pour votre information, avec un tiers de cette somme-là, pendant le plan de Marshall en Europe, nous avons reconstruit tous les pays de l'Europe de l'Ouest qui étaient détruits par la guerre. Mais avec 1 000 milliards de dollars, l'Afghanistan est toujours dans l'impasse. L'Afghanistan est toujours fracassé. Vous savez, l'insécurité, je voulais parler. Donc, tout à l'heure, il y a dans tous les villages en Afghanistan, malgré l'absence des données, vous savez, maintenant, on compte 45 000 villages. Dans les 45 000 villages, vous savez, les gens vivent dans des conditions d'insécurité et de pauvreté que vous ne pouvez pas imaginer. Dans la plupart des villages, les terres sont volées et confisquées par les anciens chefs de guerre. Puisque l'état de droit est absent dans les villages, vous savez, les gens qui sont puissants et qui ont des armes, ils peuvent se permettre de violer, voler, piller, tout faire. Depuis 2002, vous savez, 90% des projets que les militaires occidentaux et les institutions internationales ont utilisé pour le développement de ces villages-là étaient gaspillés et détournés par les différents chefs de guerre et les commandants. Donc, non seulement, vous savez, ces gens-là, ils détournent les terres, mais depuis l'époque des Soviétiques, vous savez, ils ont fait couler beaucoup de sang injustement et ils ont ôté beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur parce que vous savez, quand on est commandant et qu'il y a une jolie fille, d'accord pour le, elle est à moi. Parce que quand on a les Kalachnikov et que il y a un terrain qui est plus fertile qu'un autre, on peut dire il est à moi. Et si le père de la fille ou le propriétaire de la terre il dit non, c'est pas à moi, vous savez. Mais malheureusement, ces choses-là, dans les villages, ça ne s'oublie pas. Les gens se souviennent. Et quand on parle de la reconstruction, il faut penser ces blessures-là. Et tant qu'on ne pense pas ces blessures-là, vous savez, vous pouvez parler de 1000 reconstructions, de 1000 façons d'apporter avec de l'argent pour que la paix revienne, la paix ne va pas revenir. Vous savez, les Afghans, depuis 2005, ont perdu un temps fou à faire la paix avec les talibans. Les talibans, vous savez, qui sont des Pashtuns, des Afghans, qui ont participé à la guerre contre l'armée soviétique de façon très héroïque. Et qu'une fois, quand l'armée soviétique s'est retournée chez elle, ils se sont rendus compte que avant l'arrivée de l'armée soviétique, nous étions des maîtres d'Afghanistan. Donc, pourquoi nous ne redeviendrions pas de nouveau des maîtres de l'Afghanistan? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne font pas la paix. Vous savez, c'est vrai que les Pakistanais les instrumentalisent. Mais les talibans, ce sont des gens qui, à qui, depuis 2002, lors de la conférence de Bonn, on n'a pas su expliquer que maintenant, la page est tournée et qu'il y a une nouvelle phase qui commence et que la République, la démocratie, le droit de l'homme et puis le développement nécessitent une autre ère politique et que dans cette époque politique, dans cette ère politique, vous avez votre place au même titre que les autres. Vous n'êtes pas des maîtres, vous êtes des citoyens. On n'a pas su expliquer les vertus de la citoyenneté. Et pourtant, c'était tellement facile. Vous savez, en 2002, nous avions toutes les cartes pour faire ça. Mais dans la précipitation, vous savez, parce qu'on est allé reconstruire l'Afghanistan en 2002, suite à des événements de 11 septembre 2001 à New York, vous savez. Et M. George Bush, qui étaient auparavant, avant ces événements-là, étaient des alliés très étroits des talibans, parce qu'il y avait le projet de l'UNICAL. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les sociétés pétrolières américaines dans laquelle la famille Bush était actionnaire, et M. Karzai était le représentant là-bas. Il était des alliés des talibans. Et quand les talibans et Ben Laden a mis les Américains, suite à des événements de 11 septembre 2001, au pied de mur. Et M. George Bush n'a pas trouvé d'autre solution que d'éliminer les talibans, parce que les talibans protégeaient Ben Laden. Et c'est comme ça que fin 2001, début 2002, non, fin 2001 plutôt, en décembre 2002, vous savez, à Bonn, on a organisé une grande conférence. Et cette conférence a duré 9 jours. Pendant ces 9 jours, vous savez, les 7 parties de la résistance afghane qui étaient au Pakistan, les six parties de la résistance qui étaient en Iran, les partisans de l'ancien roi d'Afghanistan et les communistes afghans ont palabré pour partager le pouvoir. Et de chapeau de George Bush et ses 3 conseillers, M. Khalilzad, qui était un Afghan d'origine, mais qui est ambassadeur, à l'époque il était conseiller de Bush, après il est devenu ambassadeur des États-Unis en Afghanistan et puis en Irak, et après il est allé représenter les États-Unis à l'ONU. Il y avait l'actuel président de l'Afghanistan, M. Ghani, qui est un anthropologue qui enseignait à l'université et tout ça. Et puis il y a un autre qui n'a pas pris de fonction officielle, mais qui organisait tout ce qui était l'économie. Il était professeur de l'économie à Harvard. Et puis l'ambassadeur de Pakistan à Bonn. Et ils ont dit, on va partager le pouvoir entre les différentes personnes qui sont présentes là. Peu importe s'il y a des comptes à rendre, et c'est peu importe s'il y a des crimes, tout ça. Donc, les Occidentaux ont dit, nous, on va vous envoyer des militaires en Afghanistan pour assurer la sécurité. Et il nous faut une nouvelle équipe pour remplir le vide des talibans. Et c'est comme ça que, vous savez, on a inventé une équipe pour la reconstruction de l'Afghanistan et un projet pour le développement économique de l'Afghanistan qui était à mille lieues des attentes de la population afghane. Vous savez, la constitution rédigée en 2005, aujourd'hui, il faut le changer parce que les élections qu'on a organisées étaient très frauduleuses. Et vous avez vu que en 2014, septembre 2014, John Kerry était obligé d'aller en Afghanistan pour calmer le jeu. Sinon, l'Afghanistan était à deux doigts d'une guerre civile à cause des fraudes dans les élections. Les militaires, vous savez, on a envoyé 150 000 militaires occidentaux avec des équipements et des moyens que vous ne pouvez pas imaginer. Si moi j'étais commandant de la force de l'OTAN pour la reconstruction de l'Afghanistan, je vous assure qu'en espace je suis très prétentieux parce que je suis amoureux de l'Afghanistan, mais croyez-moi, matériellement, c'était tout à fait faisable qu'en espace de 5-6 ans, on mette les premières bases d'un état de droit, de la nation afghane, d'une économie adaptée aux besoins de la population et de l'environnement, et puis un avenir meilleur pour que les Afghans ne viennent pas frapper à la porte. Vous savez, quand on négocie tout par millions de dollars, vous savez, en 2002, on pouvait reconstruire une école avec 8 000 dollars. Et les ONG américains, vous savez, les PRT, les militaires américains, nous pendaient des projets de 600 pages avec 800, 900 millions de dollars. Et ils construisaient les écoles, mais vous savez, évidemment, sur les papiers, il y avait 7 millions d'Afghans qui allaient à l'école et tout le monde avait un papier et des crayons et un cartable sous le bras. Mais dans la réalité, vous savez, 80% de ces gens-là, et je parle sous le contrôle de mes amis qui ont été en Afghanistan. Et ils s'assiedaient par terre. Les écoles, on avait creusé des trous dans les champs agricoles et on avait mis une sorte de bâche de UNHCR pour faire de l'ombre et on disait qu'on a fabriqué des écoles. Ou quand on construisait des écoles ou des hôpitaux ou des casernes, vous savez, quand quelqu'un passait, un âne passait à côté et que le chargement poussait le mur, tout s'écroulait. Donc, il y avait beaucoup d'approximations et beaucoup de tout ça. Je m'excuse de dire autant de mal de la reconstruction, mais ce sont des vérités qui en matière de l'agriculture, pareil, vous savez, en matière de développement, je peux vous parler jusqu'à demain matin des différents projets. Donc, vous savez, il y a deux solutions pour ne pas continuer. Combien de temps je peux encore parler ?
Un quart d'heure.
Donc, un peu moins d'un quart d'heure. Vous savez, il y a deux solutions pour que, peut-être dans 10 ans, je serai vivant ou je ne sais pas, mais j'espère que vous vous souviendrez, c'est que pour que, de nouveau, il n'y a pas d'autres réfugiés en Afghanistan. Et ça, je rêve, mais je vais vous dire ça. Vous savez, comment vous voulez reconstruire un pays avec des approximations? La première solution, dès le début de 2002, j'avais revendiqué pour la reconstruction de l'Afghanistan 5 petites choses. Un recensement. Vous savez, personne ne connaît le nombre exact de la population afghane. Et pourtant, à plusieurs reprises, l'ONU a dépensé des centaines de millions de dollars. S'il vous plaît, si quelqu'un qui a des relations, qu'il écrive à l'ONU. Pourquoi ? On parle toujours des Afghans, mais on n'a pas fait des recensements et on parle qu'il y a 30 millions d'Afghans. Quand on a besoin de recevoir de l'aide, en Europe ou aux États-Unis ou en Allemagne, on gonfle le chiffre et quand on distribue l'aide, on baisse les chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Faire un recensement. Quelles que soient les difficultés, vous savez. La carte d'identité. Vous savez, comment vous voulez vous sentir membre d'une nation si vous n'avez pas une identité ? Ça fait 15 ans que les Occidentaux sont en Afghanistan. Ça fait 15 ans que votre serviteur pleure partout en disant « la carte d'identité ». Comment vous voulez, si je n'ai pas d'identité, que je puisse emprunter de l'argent quelque part ? Que quelqu'un qui vient me voir de l'Europe en Afghanistan puisse venir me trouver ? Vous savez ? Je suis Abu Baïder, fils d'un tel, petit-fils d'un tel, mais si dans ma rue vous ne connaissez pas mes grands-parents, vous ne me trouverez pas. Et le monde moderne, le monde dans lequel on parle de l'économie, de millions de dollars, de la banque, de la production, etc., ben il faut de l'identité. Vous savez. Donc, recensement, l'identité, cadastre. Vous savez, il faut cadastrer et le titre de propriété. Comment vous voulez que si je n'ai pas de titre de propriété écrit pour ma maison, pour mon terrain, pour mon jardin, je puisse reconstruire ou revendiquer le propriété. Vous savez, quand j'ai frappé à la porte des responsables qui s'occupaient de l'Afghanistan et que je disais, mais il nous faut le cadastre et le titre d'identité, je disais, mais ce sont des choses qui nécessitent 30 ans. Mais il faut les commencer. Il faut mettre les premières pierres. Vous savez, quand le Portugal a frappé à la porte de l'Europe pour devenir membre de l'Europe, il n'y avait pas de cadastre au Portugal. En espace de 3 ans, les géomètres français ont cadastré tout le territoire au Portugal. Donc, techniquement parlant, on a tous les moyens pour faire ça. Donc, je vous ai parlé de titre de propriété. Et puis, enfin, un nom pour les rues et un numéro pour les maisons. Vous savez, en Afghanistan, 99% des rues dans les grandes villes, comme dans les petites villes, comme dans les villages, n'ont pas de nom. Donc, tant qu'on ne rationalise pas, tant qu'on n'organise pas une société, on gaspille, on perd son temps, tout ça. Et tant qu'on ne fait pas ces petites choses-là, pour que le quotidien devienne facile, vous savez, les Afghans se trouvent désespérés, parce que ce sont des outils de la bonne gouvernance. Si vous voulez gouverner une nation, vous savez, vous ne vous rendez pas compte parce que depuis des centaines d'années, grâce à l'Église et puis l'État, votre société est organisée. Mais quand vous êtes en Afghanistan, il y a un tel désordre, il y a une telle désorganisation que si vous n'allez pas frapper à la porte d'un chef de tribu ou un chef de village ou un malek ou un bay ou je ne sais pas quoi, dans le village, vous tournez en rond. On ne peut rien faire si on ne passe pas. Donc, il faut recommencer, il faut reconstruire la démocratie dans ces 45 000 villages par le bas. Il faut mettre les prémices d'une mairie qui devient partenaire avec l'État à la place des chefs féodaux. Tant qu'on n'organise pas toutes ces petites choses-là, l'Afghanistan ne se reconstruira pas. Et puis pour terminer, vous savez, permettez-moi de vous dire que en Afghanistan, malheureusement, la population est désespérée parce que des mots tels que la République, la démocratie, l'état de droit, où le droit de l'homme sont devenus des mots dont le sens a glissé vers une sorte d'absurde. Vous savez, la République n'est pas égalitaire. L'état de droit n'est pas l'état de droit. Et la démocratie, vous savez, quand vous êtes fort, vous êtes le symbole de la démocratie, mais quand vous êtes faible, vous écrasez les gens. Donc, une des choses à faire, pour donner confiance à des gens-là, il faut rendre à ces mots-là, à ces concepts-là, à ces notions-là, qui font l'honneur de l'Occident et des sociétés occidentales, leur vrai sens pour que la République devienne République, que la démocratie devienne démocratie et que le droit de l'homme ne soit pas uniquement aller créer des institutions pour qu'une ONG défende le droit d'une femme ou d'un homme qui est bafoué. Voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire. Merci pour votre écoute. Merci pour votre attention.